Vous écoutez
RMC.
Étienne Campion est avec nous, journaliste à Marianne. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Tiens, rapidement, bonsoir, pour éviter toute ambiguïté, tu n'es pas de la famille de Marcel Campion, le candidat à la mairie de Paris.
On pose souvent la question, mais non, malheureusement.
On va rapprocher Étienne du micro également. Donc voilà, Étienne Campion est avec nous, journaliste à Marianne, qui a publié une enquête sur Mohamed Ayachi Ajroudi, l'homme qui veut racheter l'Olympique de Marseille. Alors, c'est vrai qu'on entend tout et un peu n'importe quoi sur son cas, son projet également. Avec toi, on veut essayer de comprendre qui il est et est-ce que son projet tient la route. D'abord, dis-nous comment t'as mené ton enquête, t'as contacté des personnes qui l'ont croisé à un moment dans leur vie.
C'est ça. Alors, à Marianne, on a l'habitude d'interroger les faits en prenant toujours un pas de côté, en regardant le traitement de l'actualité d'un sujet et en l'interrogeant, en menant l'enquête. Alors, j'étais un peu surpris, on va dire, du traitement de l'affaire, de ce projet de rachat de l'OM par M. Ajroudi. Et je me suis dit que j'allais mener l'enquête en déjà interrogeant des gens qui l'ont connu. Alors, c'est pas toujours facile, puisque c'est un milieu un peu compliqué.
Un peu opaque. Football,
oui. Voilà, un peu opaque. Donc, les gens ne peuvent pas forcément témoigner en on. Mais voilà, alors, les traits qui sont ressortis de son personnage, c'est qu'il est assez atypique. C'est-à-dire qu'il a des techniques d'approche bien particulières. C'était déjà le cas dans les années 2000, pas pour des projets de rachat de club de football, pour des projets d'affaires, notamment une affaire assez connue en 2004 avec Veolia. Mm-hmm. Déjà à l'époque, il expliquait qu'il avait derrière lui des fonds saoudiens, qu'il pouvait avancer, qu'il pouvait faire avancer des affaires.
Un discours qui ressemble à celui qui tient aujourd'hui pour l'OM.
Exactement, exactement. Donc, les gens qui l'ont côtoyé m'ont parlé de lui comme quelqu'un qui a réussi. Il a réussi indéniablement, il a fait quelques bons coups dans l'industrie dans les années 90-2000. Mais, il a un penchant, on va dire, pour toujours se mettre en avant, en rajouter. Alors, le symbole de tout ça, c'est le Four Seasons au Georges V, où il a ses habitudes, déjà dans les années 2000.
Grand palace parisien.
Voilà, exactement. C'était ici, en 2004, il avait eu une affaire un peu rocambolesque. Après cette tentative de négociation avec Veolia,
Il était passé à tabac, c'est ça?
Voilà, il s'était fait tabasser par l'homme d'affaires Alexandre Joury, qui est connu dans d'autres grosses affaires plutôt politiques.
Et qui était en prison il y a encore quelques semaines.
Voilà, il était.
Qui va être interrogé pour la Libye.
Exactement, il est connu pour l'affaire des financements libyens. Bon, il s'était fait passer à tabac parce qu'il avait expliqué qu'il allait pouvoir racheter des parts de Veolia dans Vivendi. L'affaire est assez technique, on ne va pas rentrer dedans en détail, mais. Il avait fini tabassé. Déjà à l'époque, il expliquait qu'il avait des fonds saoudiens et qu'il pouvait avancer là-dessus. Voilà, alors après, évidemment.
Donc là, en fait, sur le personnage, c'est quelqu'un qui en rajoute.
Qui évolue dans un univers un peu nébuleux, certes, mais qui a connu comme, c'est important de le dire.
Ça me rappelle une région de France, moi, quelqu'un qui en rajoute, qui les choses à chaque fois.
Mais,
non,
c'est quoi
ça. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'il a fait à la Marseillaise, mais lui, c'est un Tunisien.
Bah, c'est pas dit, hein.
Les gens que j'ai interrogés m'ont dit que c'est un petit peu dans l'éthos, on va dire, de l'homme d'affaires tunisien, maghrébin, c'est-à-dire il a réussi dans l'industrie, il a fait quelques bons coups, il a envie d'aller dans d'autres milieux. Ces trois milieux-là, c'est la télé, la politique et le foot.
D'accord.
Dans les trois, malheureusement pour lui, il a échoué.
Attends, on va y venir. On est dans le détail à chaque fois sur ces trois domaines, c'est ça qui est intéressant. Juste rappelons une chose, c'est un homme d'affaires.
C'est ça.
Qui a de l'argent.
Alors,
comment il a construit son patrimoine?
Là aussi, ça interroge parce que sur sa fortune, on n'a pas beaucoup d'éléments, on n'a pas beaucoup de preuves. Quand on regarde les entreprises qu'il déclare, on peut regarder sur Internet. En fait, ça c'est public les chiffres d'affaires d'une entreprise. Et ben malheureusement, il y a des chiffres d'affaires qui sont égal à zéro ou à 10 000 euros, qui sont très peu conséquents.
Ah oui.
Et donc, en fait, il n'y a aucune preuve de sa réussite matérielle. Il est, par exemple, il explique qu'il est, travaille en relation avec des grandes firmes comme Suez ou la CNIM. C'est une compagnie industrielle méditerranéenne. Sauf que là aussi, quand on enquête, c'est le Parisien qui a sorti ça dans son article, et malheureusement, il a un litige judiciaire avec cette entreprise-là. Donc les entreprises dont il dit être partenaire, parce que ça fait il faut afficher, il y a un CV qui est mis en avant, Bah, quand on regarde, il n'y a pas grand chose, en fait. C'est ça le problème.
Je précise qu'on est, on n'est pas en train de faire un portrait forcément à charge de.
Non,
de je vous dis, on est en train d'expliquer qui est cet homme, voilà. Son parcours, et dans un instant, on va venir à son projet, on va accueillir Loïc dans un instant qui nous a appelé au 32-16.
C'est basé sur des faits, là.
Ouais. Voilà, c'est des faits.
C'est les faits que vous rapportez en tout cas. Alors Damien plaisantait un peu sur l'OM et son côté un peu à en rajouter. Moi je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un campion pour parler de l'OM. C'est notre
Kevin, enfin
c'est beau. C'est un compliment. Parce que c'est quand même voilà les champions c'est à jamais les
d'accord,
premiers.
Ah d'accord, je pourrais accuser. Ah d'accord.
Les champions.
Ok, allez, voilà. Très bien.
C'était un compliment. Donc,
tu n'es pas Marseillais, Étienne.
Ben non, je ne suis pas Marseillais. D'ailleurs, je tiens à préciser aux auditeurs que je ne suis pas du tout supporter du PSG, ni lobbyiste du Qatar.
Ni anti-Marseillais.
Ni anti-Marseillais. J'aime même bien l'OM et j'ai d'ailleurs envie que le club réussisse et voilà. Le plus loin possible.
Il y a quelque chose qui, moi, dans votre article, que j'ai entouré, alors pas au stylo rouge, mais j'ai entouré gaiement, c'est quand vous dites il a là, que ce monsieur Ajroudi,
oui.
À l'approche avec l'effet waouh. Et ça, moi, j'ai bien aimé, donc je vais juste vous citer. Vous dites, quand il avance sur un coup, beaucoup d'effets d'annonce, il a, avant d'appliquer la stratégie d'échec, comme il le fera peut-être à l'OM, être sûr de perdre et reporter la faute sur le camp d'en face en passant pour le bon samaritain. Et on met des bâtons dans les roues. À qui on met des bâtons dans les roues? Donc, en fait, en tout cas, c'est un peu ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous avez raison, mais en tout cas, vous avez bien décrit ce qui s'est passé.
Tu veux dire que cet homme-là a fait beaucoup parler de lui sans réellement avoir envie peut-être de racheter l'OM
ou sans vraiment avoir des faits tangibles pour l'instant.
C'est ça. Alors, je précise que là, je cite une source, ce n'est pas moi qui je rapporte le problème.
Oui, voilà.
Voilà. Alors, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le milieu des affaires la technique de l'effet levier. C'est-à-dire, vous arrivez avec un gros effet d'annonce, avec un montant affiché qui est très conséquent, et tout de suite, vous polarisez l'attention, vous attirez les regards, on se dit, bon, cette personne-là, elle a de l'argent, il va se passer quelque chose. Ensuite, bah, malheureusement, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire, vous faites croire qu'il y aura beaucoup, vous espérez que quelqu'un arrive derrière pour mettre des fonds, pour venir accompagner vos dires,
d'accord,
que des déclarations, mais après, ça marche pas forcément. Et là, ce que vous reportez, là, ce qu'appelle la technique de l'échec, c'est vous reportez la faute la responsabilité de votre échec sur quelqu'un d'autre. Alors, il l'avait déjà fait par le passé sur l'affaire Veolia. Voilà, il a expliqué que on lui en voulait, etc. Là, il commence déjà à expliquer, c'est la faute de la presse qui a trop parlé.
Oui.
Que bon. Il est arrivé dans les médias.
D'un éventuel maître chanteur dont parle Mourad Boudjelal, notamment.
Maître chanteur, que la presse serait contre lui. Et effectivement, il y aura aussi une responsabilité portée sur la direction de l'Olympique de Marseille. On dira, non mais c'est l'OM qui n'a pas voulu vendre, ils ne sont pas vendeurs.
Déjà, il était censé parler qu'une seule fois et je crois qu'il enchaîne les interviews depuis...
Exactement, au début, il a dit, j'ai parlé, maintenant place aux actes. Sauf que c'est l'inverse, en fait, dans une négociation dans le business, on passe à la table des négociations et après, à la limite, soit ça fuite, soit on fait une déclaration. Là, ça ressemble plutôt à une technique d'OPA agressive, en fait. C'est-à-dire, on force les gens à vendre le couteau sous la gorge.
Je rappelle que l'OM a précisé à plusieurs reprises qu'il n'était pas vendeur, effectivement.
C'est ça,
aucun contact entre Ajroudi et Franck Marcourt.
Franck Marcourt a toujours répété qu'il n'était pas vendeur. Et s'il était vendeur, il aurait...
Alors justement, moi j'ai une question par rapport à Ajroudi. Quel est l'intérêt pour lui de se rapprocher de l'OM? Est-ce qu'il fait ça pour bien se faire voir peut-être du côté de l'Arabie Saoudite? Parce qu'il a entendu dire que l'Arabie Saoudite voulait investir dans le football avec Newcastle notamment, et s'est dit, attends, et moi, je vais me mettre peut-être sur le plan pour l'OM et je vais servir d'intermédiaire, donc pourquoi pas en même temps se rendre indispensable.
Un club populaire à Marseille, voilà. Au Maghreb également, Algérie, Tunisie, Maroc.
C'est ça. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans, on peut apporter plusieurs explications.
C'est la publicité gratuite.
D'abord, c'est une super revue de presse, c'est-à-dire que vous passez dans la presse parce qu'il n'est pas connu du grand public.
On ne le connaissait pas, moi je ne le connaissais pas,
Désormais, il fera partie des références culturelles footballistiques.
Attention, il y en a qui ont une référence culturelle dans Kashkar. Le même domaine, c'est Jacques Kashkar.
Exactement, Kashkar, c'est ce que j'allais dire.
Il y a un vrai parallèle, en tout cas.
Mais pourquoi est-ce que Jacques Kashkar, à l'OM en 2007, fait ça? Pareil, il veut faire parler de lui. Pourquoi est-ce que Mayol, au WAC, il y a quelques années, était arrivé, avait fait venir Adriano, regardez, il a fait rêver tout le monde. Ça, c'est de l'ordre de son intimité, on va dire. Mais par contre, il y a effectivement d'autres éléments qu'on peut interroger dans ce rapport avec les Saoudiens. Alors, parce que si d'un côté, il explique aux Français qu'il a l'argent des Saoudiens, de l'autre côté, il monnaie ces effets-là par rapport aux Saoudiens. Là, c'est plus compliqué. À l'époque, avec Veolia, il espérait faire arriver les Saoudiens en France. Là, il monnaie cette influence pour, disons, se faire bien voir des Saoudiens. La question que moi j'essaie d'interroger, c'est qui est ce fameux sponsor saoudien ? Sa présence au Georges V interroge, puisque, comme chacun sait, enfin non, comme chacun sait peut-être pas, mais le Georges V est détenu par M. Al-Walid,
bien sûr,
qui est un milliardaire saoudien. Mais M. Al-Walid n'a pas envie, n'a jamais déclaré qu'il voulait investir dans le foot. C'est quelqu'un qui n'aime pas spécialement le foot. Bon.
C'est pas le moment pour lui.
Et c'est pas le moment pour lui. Et de toute façon, les Saoudiens sont déjà sur le projet de Newcastle. Comment voulez-vous qu'ils partent, qu'ils mettent deux fers au feu?
Et puis, Étienne, si je peux me permettre, si les Saoudiens veulent acheter un club, ils passent pas par l'intermédiaire.
Exactement.
Je redis, ils y vont directement.
Exactement.
Ils ne parlent pas, ils actent un rachat et après ils partent.
Exactement. D'autant plus que les Saoudiens ont des réseaux en France. Les Saoudiens ont des réseaux français. D'ailleurs, il y a quelque chose que personne n'a relevé, c'est que l'agence qui fait la communication des Saoudiens en France, c'est Image 7, c'est Admeo, la papesse de la com, elle est très connue. Et l'agence qui fait la com de Franck McCourt, c'est aussi Admeo. Donc, si les Saoudiens ont envie d'enclencher des pourparlers avec l'OM, bah, ils passeront par là. Ou alors, ils passeront par Emmanuel Macron, qui est supporter à l'OM. Voilà. Comme le Qatar a fait avec le PSG, ils n'ont pas besoin de passer par l'intermédiaire.
Donc, monsieur Ajroudi, homme qui veut racheter l'Olympique de Marseille, on déroule son portrait et son parcours. Avant d'accueillir Loïc au 32-16 qui veut parler de Mourad Boudjelal, qui s'est associé à cet homme d'affaires franco-tunisien, il y a une histoire que vous relatez, Étienne, dans votre enquête dans Marianne. C'est ce passage avec notre Gérard Depardieu national, effectivement, qui peut résumer en partie le personnage Ajroudi. Racontez-nous.
Oui, alors ça peut paraître assez surréaliste parce que Depardieu, on peut se dire qu'il a rien à faire là-dedans, le milieu du foot, c'est pas son domaine, encore que. Mais j'ai pu recueillir des témoignages qui m'ont amené à raconter cette histoire un peu folle. En fait, on est à l'été 2019. Ajroudi réussit à rencontrer Gérard Depardieu via ce qui serait sa société de production dans le cinéma. Parce qu'Ajroudi, chez lui, a des installations. Il dit qu'il va faire un studio de cinéma monstrueux. Et ouais, il arrive à rencontrer Gérard Depardieu. On est à l'été 2019. D'ailleurs, il s'en cache pas, c'est sur sa page Instagram. Il a mis plein de photos parce qu'il est comme ça, Ajroudi. Vous savez, il est bien en scène, sa vie.
À l'Instagram, il vaut le coup. Hein. Ça, c'est clair. Ça vaut le coup d'être vu.
À l'Instagram d'Ajroudi est très amusant. Il faut aller regarder. Il étale sa vie. Bon.
Ah, moi, je trouve que c'était l'Instagram de Voici. Non, c'est bien l'Instagram.
Ça ressemble un peu à ça. Avec des hashtags un peu cucu.
Oui, il y a un peu groupie, quoi.
Freedom, voilà. Et donc, il arrive à atteindre Gérard Depardieu. Voilà. Et il lui présente un film. Il lui explique que, bon, il faut venir en Tunisie, qu'il y aura un super cadre et tout ça. Il y a un scénario qui arrive là. Bon. Gérard Depardieu, dès le départ, est très méfiant, mais il en a vu d'autres, donc il y va. Il y a un jet qui a frété au Bourget pour faire venir Gérard Depardieu en Tunisie à la Mamette.
Ça veut dire qu'il a quand même les moyens d'affréter un jet.
Voilà. Alors, la question interroge aussi, parce que les sponsors derrière qui peuvent lui permettre d'affréter le jet, on ne sait pas, moi je ne peux pas m'exprimer là-dessus, je n'ai pas été regarder ses comptes, mais effectivement, un jet vient chercher Depardieu du Bourget à la Mamette. Et là, Monsieur Ajroudi reçoit chez lui Depardieu, il lui en fait voir de toutes les couleurs, vous savez, toujours avec ce côté d'en rajouter. Il lui montre, il extrapole un peu le nombre de ses chevaux, son huile d'olive, il produirait une huile d'olive chez lui qui serait la meilleure au monde. Bon, je vous passe les détails. Voilà, Gérard Depardieu arrive, il est méfiant, mais Gérard Depardieu, lui, il aimerait bien chanter Barbara, parce que Gérard Depardieu, il était très ami avec la chanteuse Barbara, qui est maintenant décédée depuis plusieurs années, et il la chante à travers le monde. Et il se dit, bon, je vais peut-être aller pouvoir chanter Barbara là-bas, on ne sait jamais. Et donc, il y va, et là-bas, je vous dis, il va encore plus loin. Il invite à déjeuner, tout ça. Il lui dit, Gérard, voilà, moi, je peux vous trouver un passeport saoudien.
Ah.
Alors là, Gérard Depardieu, bon...
Pas pour des raisons fiscales.
Alors, pas pour des raisons fiscales, parce que parce que Pascal Jroudi encore veut pouvoir monnayer Depardieu près des Saoudiens. Gérard Depardieu, il est craintif, mais il en a vu d'autres. Gérard Depardieu, il était en Corée du Nord en 2018, il était en Russie.
Bon, bien sûr.
Et il lui répond c'est pas mal, c'est bien l'Arabie Saoudite. Bon, un peu goguenard comme ça, il se dit on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et il dit allez-y, bon, on va voir. En repartant, je vous dis, lui présente son projet de studio de cinéma monstrueux à la Mamette, sachant qu'il faut rappeler aussi que la villa à la Mamette d'Ajroudi a été au cœur d'une polémique parce qu'elle a été construite illégalement sur un terrain, sur une montagne.
D'accord.
Ça fait partie du dossier d'Ajroudi. Et Gérard Depardieu rentre, on est à l'été 2019. Le passeport va arriver puisque, bon, il en rajoute toujours, Ajroudi, mais il explique qu'il avait Ben Salman tous les jours au téléphone, vous savez. Le passeport n'arrive pas. Il devait arriver le lendemain, il n'arrive pas. Il n'arrive toujours pas. Depardieu, lui, il avait flairé le coup. Il s'est retiré et voilà. Depardieu, il a autre chose. Il en a vu d'autres. Et le passeport n'est jamais arrivé. Voilà, bon, ça n'a pas empêché à Jroudi mettre d'autres photos sur Instagram avec Depardieu, de le revoir un peu après. Ouais, mais
il a utilisé l'image de Depardieu, star international, pour se rapprocher.
Exactement.
C'est un moyen pour toucher les Saoudiens.
Voilà, et c'est ça qui s'est passé. C'est un peu ces techniques d'effet de levier. Voilà. On promet beaucoup et il ne se passe pas grand-chose.
En tout cas, nous, alors, on n'a pas mené l'enquête là, Étienne, mais on a la première déclaration de Gérard Depardieu lorsqu'il est monté dans le jet. Écoutez.
On n'est pas bien. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
Gérard Depardieu, témoignage exclusif de notre GG national, bien sûr. Alors j'accueille Loïc au 32-16 qui est avec nous. Salut Loïc et bienvenue dans l'After.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue. Toi tu voulais évoquer l'apparition dans ce dossier, ce projet de reprise de Mourad Boudjelal.
Exactement. Alors, comme je disais avec Max, votre standardiste, que M. Ajroudi soit un personnage un peu fantasque ou qui essaye de tirer à la couverture et qui aime le bling-bling, vous en avez fait la démonstration à maintes reprises. Après, il y a des journalistes qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais c'est pas le débat du jour. Moi, ce qui m'interroge, c'est monsieur comme Boudjelal qui est un gros réseau, c'est pas un laporo de 6 semaines, quoi. Il a dû se renseigner, voir si le projet était viable, faisable, montable, et surtout pas passer pour un blaireau. Parce que dans la région PACA, si effectivement ça se fait pas avec Marseille et qu'effectivement il est président de Toulon au foot, il sait qu'il a tous les Toulonnais à dos. Donc je me dis que ce mec-là, s'il se dévoile au grand jour en disant « voilà, on est avec un porteur d'affaires », parce que ça reste un porteur d'affaires, hein, c'est pas lui qui va mettre tous les rondes sur la table, il peut pas y aller avec la fleur au fusil, avec une pâquerette, quoi. À mon avis, c'est pas possible. Boudjelal, c'est quand même un type qui a un peu de métier,
oui, qui a réussi,
de vécu,
hein.
qui a des connexions et tout, qui a réussi.
Dans l'édition, dans le sport.
Voilà, ce qu'il a fait avec le RCT, c'est quand même monumental, quoi. Après, il y a quand même un gouffre, si c'est pas le Grand Canyon, entre le monde du rugby et le monde du football. Mais il peut pas être aussi naïf, aussi bisounours, aussi fleur bleue. Donc je me dis que
justement, tu trouves pas ça curieux quand même que justement, si t'as les reins solides, si t'es costaud, si t'es sûr de toi et que derrière, t'as ce qu'il faut au niveau argent. Pourquoi s'afficher comme ça et faire une campagne de cette manière-là, même de la part de Mourad Boudjelal?
Mais à mon avis, Mourad, il a voulu faire le buzz et rentrer, tu vois, un peu dans la meule, comme dit Vincent, rentrer direct. Mmh. Mais aujourd'hui, ça serait un trop longueur. Où ils font une proposition, nous, le grand public, on ne saura jamais s'il l'a fait ou pas. Mais où ils le font, où ils ne le font pas, c'est un truc qui doit durer 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Où ils le font, où ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, il ne faut pas s'afficher autant, il ne faut pas s'avancer autant. Et puis c'est pour Perlin Pimpin quand il dit quoi de mieux que de faire revenir l'enfant du pays, Zinedine. Mais on ne parle pas de Zinedine Machache, on parle de Zinedine Zidane. tu vois ce que je veux te dire? À un moment donné, il faut de la crédibilité. Pas un supporter de l'OM aujourd'hui qui croit qu'un jour ce sera Zidane, notre entraîneur.
Kevin. Ouais, Loïc, moi je suis complètement d'accord avec toi. On a eu ce débat la semaine dernière avec Jérôme. Moi je disais déjà que, en tout cas j'espérais que la majorité des supporters de l'OM, qui sont quand même des connaisseurs du football, qui ont quand même qui certes rêvent à une grande équipe pour l'Olympique de Marseille, mais qui ont quand même pour la majorité la tête sur les épaules. Et ils savent bien que parler de Zidane, parler de Ronaldo, ce sont des effets d'annonce. Et
ils sont pas dupes, ils sont pas nés, voilà. Les supporters marseillais.
Maintenant, je suis pas sûr pour parler de ce personnage. Alors nous, on le connaît pas. On peut un peu sourire lorsqu'on entend les histoires, mais on n'y était pas, donc on va pas juger. Par contre, moi, je suis vraiment pas sûr que c'est un président extravagant qu'il faut aujourd'hui à l'OM. Pour le coup, tu vois, le McCourt qui est dans son bureau là à Los Angeles et qui gère à distance avec un héros qui est aussi quand même une figure assez sobre. J'ai l'impression que cette ville, elle est tellement chaleureuse que avoir un président un peu froid, ça peut pas faire de mal en ce moment.
C'est quand même l'exemple. Alors, Bernard Tapie, hein, qui est un président chaud.
Oui, mais Bernard Tapie, c'est quand même le contre-exemple, ou en tout cas l'exception qui confirme la règle. Mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas on a besoin d'un président comme ça du côté de la Canebière.
Etienne, très rapidement, la présence de Mourad Boudjelal.
Très rapidement. Alors déjà, ce qu'il faut voir, ce qui est très peu écrit dans la presse, c'est que Boudjelal, ça fait son troisième club sur lequel il essaye d'avancer en même pas un mois et demi. Au sortir du confinement, il part sur le projet du rachat, en tout cas d'un accord avec le SC Toulon. Ça se passe pas très bien puisque le club annonce qu'il y a un accord mi-mai. Sauf que le 18 mai, regardez son compte Twitter, il explique en tweetant une chanson de Balavoine qui est Au revoir. Il met désolé ami toulonnais. Où est-ce qu'il part? Il part sur le projet de rachat de l'Atlético Marseille avec Karim Akhlil. Sauf que ça tombe mal pour Boudjelal. Le 10 juin tombe la sanction contre l'Atlético Marseille, qui est relégué en Régional 2. Je crois que ça fait la D8. Donc il tombe de haut. Sauf qu'entre le 10 juin, où il abandonne le projet de l'Atlético Marseille avant d'avoir abandonné celui du SC Toulon, et ben juste après, il part sur celui de l'OM. Donc, oui. En 15 jours, il aurait eu moyen de monter un énorme projet. Voilà.
Et dans la même région, autour de la même région.
Et je rappelle que là, ce début juillet, il a moitié abandonné, mais il a mis un autre pied, il a remis un pied au SC Toulon. D'ailleurs, le président du SC Toulon lui a dit, c'est pas possible, tu peux pas avoir deux fers au feu. Yes. Et il parle déjà au conditionnel sur la question du rachat de l'OM. Oui. Là, il a
compris, Mourad Boudjelal veut absolument arriver dans le monde.
Donc ça interroge tout ça.
Merci beaucoup Étienne Campion, journaliste à Marianne, d'être venu nous raconter cet homme.
Merci de m'avoir reçu.
Mais de rien. Mais si on revient dans un